fédérations ont été créées en... C'est une association, qui a été créée en, 2001. Ça veut dire que la première fois que nous sommes confrontés à la question de l'information sur les attentats, eh bien, c'était au 11 septembre. Je me souviens que c'était une rencontre qu'on avait organisée au Sénat. Et puis, nous avons, hélas, depuis l'occasion de revenir sur l'affaire Mera, le traitement. Et à l'époque, on avait essentiellement centré notre réflexion sur les médias d'information en continu. Et puis, avec les instituts du journalisme, nous avons également été partenaires de la rencontre qui avait lieu au CESE, où on était revenu sur le traitement des attentats sur Charlie et le père Cacher. Donc, c'est effectivement sur la base de cette réflexion, sur à plusieurs reprises, sur ces difficultés qu'on rencontre dans le traitement des attentats, que nous avons fait le choix avec l'ODI d'identifier deux sujets qui nous paraissaient particulièrement importants dans le cadre de Nice, c'est-à-dire à la fois le rôle des réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux jouent un rôle dans le traitement des attentats. On l'avait vu aussi au moment de Charlie et de Peter Cacher. Mais là, on a vu que c'est toujours compliqué, évidemment, de traiter ces situations et ces événements. Mais là, on a vu un certain nombre de dérives, de complexités, de difficultés dans l'interrelation entre le travail des médias et des réseaux sociaux. Et puis, la deuxième question qu'on a choisi de traiter, c'est celle qui est apparue à Nice, mais qui s'est prolongée par la suite, notamment après ce qui s'est passé à Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on montre comme image, c'était la question de Nice, et est-ce qu'on montre tout le monde? Et c'est le débat qui a eu lieu après Saint-Étienne-de-Rouvray. Est-ce qu'on montre, par exemple, les photos des terroristes ou un certain nombre d'éléments? Est-ce qu'on nomme un certain nombre de personnes? Sujet qui n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il y a des chartes de déontologie, je pense celle de West France notamment, qui a déjà, en matière de faits divers, pris un certain nombre de points de vue sur le fait de nommer ou de ne pas nommer les personnes mises en cause. Mais c'est l'occasion de revenir dessus. Alors, les entretiens d'information ont un peu, vous direz, une vocation assez proche de ceux de celle de l'ODI. Il s'agit de créer des moments où, à la suite d'événements ou de sujets qui ont marqué l'actualité et qui en même temps ont fait débat dans leur traitement, de prendre le temps de revenir dessus, d'en discuter, d'y réfléchir et de le faire avec ceux qui l'ont eu directement à traiter les choses, journalistes, hiérarchie rédactionnelle, responsables de médias, et puis un certain nombre de représentants de la société civile. Parfois ce sont des sourds dans certains débats, parfois ce sont les personnes qui sont mises en cause, et puis aussi un certain nombre de grandes associations, je pense à la Ligue de l'enseignement qui nous accompagne depuis l'origine, et puis de nous appuyer aussi sur les contributions, les réflexions d'un certain nombre d'universitaires, de chercheurs. Ça va être le cas dans cette première table ronde. Nous avons demandé à Nicolas Van Der Bus de traiter les questions des rumeurs.
On va éteindre ça parce qu'ils ont, ils l'ont en pleine figure. C'est dommage pour eux.
Bon, nous allons tout de suite passer donc à cette première table ronde. Je vais en profiter pour déplacer le micro. On a des problèmes d'enregistrement. Sachant que vous allez retrouver le contenu de nos échanges sur les sites d'internet de l'ODI et puis les entretiens d'information, qui sous le nom s'appelle Entretien Info, et que Gilles Bruno, qui est parmi nous, réalise un live tweet de cette rencontre. Je vais vous présenter tout de suite le thème de notre première table ronde. Nous l'avons intitulé Interférence dans le circuit de l'information, les réseaux sociaux et les images amateurs. Et pour en traiter, pour en discuter, j'ai à côté de moi Denis Caro, qui est directeur de la rédaction de Nice Matin, qui a été journaliste à La Montagne, puis au Parisien, mais déjà à la rédaction de Nice Matin depuis déjà pas mal d'années. À côté de lui, Anne Kerlock, qui est rédactrice en chef adjointe de 20 minutes et plus sur les questions notamment de relations avec le public. Elle est diplômée du CMJ, où j'ai eu le plaisir de la rencontrer en tant qu'enseignant à l'époque. Elle a été journaliste à Charlie Hebdo et elle est 20 minutes, elle a fait aussi pas mal d'autres choses, mais c'était juste pour résumer un peu son parcours. À côté d'elle, donc Grégoire Lemarchand, journaliste à l'AFP. Donc là, c'est la parole et le regard et l'expérience de l'agencier qui va intervenir. Il est aussi diplômé du CFJ. Il est passé par AP un peu de temps, d'après ce qu'il m'a dit, et puis ensuite à l'AFP. Et il est aussi chargé, il fait partie de l'équipe qui est chargée de la relation et du travail sur les réseaux sociaux. À côté de lui, nous avons donc Nicolas Van Der Bist. Il est assistant à l'Université catholique de Louvain. Et il a un blog, Réputation Lab. Il a un certain nombre de collaborations que vous avez peut-être vues sur E89 et à la première RTBF. Ça, c'est pour Tristan Doriac, qu'il a peut-être rencontré là-bas. Il n'écoute pas, de toute façon. Et puis, à sa gauche, nous avons Sylvain Desjardins. Il est correspondant à Paris de Radio-Canada. Mais j'allais dire que c'est un peu notre reporter de la table ronde, puisque avant d'être correspondant dans un endroit qui en principe est paisible, même si on s'aperçoit que c'est moins évident, il a été reporter donc, sur de nombreux terrains de conflit en Afghanistan, en Irak, au Soudan. Il a été aussi reporter en Russie, au Vietnam, en Afrique du Sud, etc. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, cet échange en demandant à celui qui finalement était le premier à être concerné par ce qui était en train de se dérouler à Nice, en tout cas premier par la proximité et puis aussi par l'implication de ceux qui étaient directement au cœur de cet attentat qui évidemment avec à la fois le caractère, je dirais, inattendu, brutal, violent de l'événement, et puis aussi c'est la question donc de notre échange, très rapidement un certain nombre de contenus qui circulent sur les réseaux sociaux, des images bien sûr, mais aussi un certain nombre d'informations. On parle de prise d'otage, on parle de fusillade, etc. Et donc, ma question de départ, c'est comment vous avez fait ? Et je suppose qu'évidemment, votre dispositif n'était pas du tout celui qui anticipait ce type d'événement. On ne l'anticipe pas, heureusement pas toujours.
Bonjour à tous. Alors effectivement, on n'y était pas du tout préparé. On a l'habitude... comme toutes les rédactions et comme tous les titres de PQR, de vivre des événements forts. On a vécu des événements dramatiques depuis 2 ans. Il y a 2 ans tout juste, la mort d'Hervé Gourdel, dans les conditions que vous savez. Il y a 1 an, les inondations dans l'ouest des Alpes-Maritimes. Mais ça, un événement comme celui-là, on n'y est pas préparé. On n'est pas préparé à l'événement lui-même. On n'est pas préparé à l'importance de la couverture. Juste un chiffre, en 15 jours, c'est 150 pages de Nice Matin, 150 pages de journal, plus des centaines et des centaines de contenus web, et on n'est surtout pas préparé à cette proximité, la proximité qui est partout dans l'événement du 14 juillet, à commencer par la manière dont on l'a appris et dont on l'a appris à nos lecteurs et à nos internautes. Pour une raison très simple, c'est qu'on avait quelqu'un qui était sur place, qui a été frôlé par le camion, qui s'appelle Damien Allemand, que certains connaissent ici, qui est le chef de l'équipe digitale et qui a eu peur pour lui, a eu peur pour sa copine qui était là, qui, comme d'autres, s'est réfugié dans un restaurant et bien entendu a tout de suite alerté, et c'est ce qui fait que quelques minutes après le drame, moins de 5 minutes après, on donnait l'information et on donnait une information précise en expliquant tout de suite que c'était un camion et que c'était un acte terroriste. Donc cette proximité, elle est absolument partout dans cet événement-là. Donc on a, comme on le fait sur tous les événements, envoyé des équipes sur place. Et très rapidement, et on en arrive très vite à notre sujet, on a composé avec le flot d'informations qui arrivait sur les réseaux sociaux et qui était absolument énorme, là aussi, dès les premières minutes du drame. Et on s'est nous-mêmes servi des réseaux sociaux pour une raison simple, là aussi, c'est que dans la mesure où on a été les premiers à donner l'info, on a eu un trafic absolument colossal et on n'est pas préparé à un tel trafic, donc notre site n'a pas tenu la charge et le site a planté. Donc on a fait le choix très vite de se rabattre sur Facebook et on publiait l'ensemble de nos contenus, chaque nouvel article sur Facebook. On y reviendra, on publiait aussi les démentis à chaque fois qu'il y avait une rumeur qui se révélait être une fausse info, on faisait passer le message et on s'est servi de Facebook pour faire un point régulier toutes les 3 heures sur la situation. Donc très vite on a eu 2 sources. On a eu la source classique des reporters sur place et la source des réseaux sociaux, et on s'est trouvé confronté, et je parlerai tout à l'heure des avantages et des bénéfices des réseaux sociaux, on s'est trouvé confronté dans un premier temps aux difficultés, aux pièges, aux rumeurs. Bien sûr, il y a beaucoup de pression, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, mais le maître mot dans ces cas-là, c'est à la fois garder son sang-froid et surtout, et toujours l'avoir à l'esprit, même si ce n'est pas forcément évident, et alors c'est un lieu commun de dire ça, hein, mais c'est rester et revenir aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire vérifier et recouper. Donc, plusieurs exemples hein, là-dessus. La première information qui a circulé partout, y compris avec des gens qui nous appelaient à la rédaction et qui nous disaient « il y a une prise d'otage au Buffalo Grill sur la promenade des Anglais ». Donc on avait des gens sur place, on était en liaison avec la police, avec la préfecture, et on n'avait aucune confirmation de cette info-là. Et cette info circulait pour une raison assez simple, c'est que, et on a vu ce phénomène à plusieurs endroits à Nice, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui se sont réfugiées dans ce restaurant, que les portes ont été fermées, qu'il y avait un regroupement de forces de l'ordre devant qui pouvait laisser croire aux gens qui étaient sur place qu'il y avait une prise d'otage. Donc cette information, nous ne l'avons non seulement jamais relayée, mais surtout, on l'a démenti et on a permis de faire en sorte que les gens ne cèdent pas à la panique. Et là aussi, on retrouve et on se pose très souvent la question de oui, mais tout le monde est journaliste aujourd'hui, tout le monde balance des infos. Simplement, dans ces cas-là, il y a la force et la légitimité de la marque. Et de la marque journalistique qui fait que quand on envoie un démenti sur Facebook pour dire non, il n'y a pas de prise d'otage au Buffalo Grill, de la même manière, quand on envoie un démenti en disant non, il n'y a pas de coup de feu dans le Vieux-Nice, et il n'y a pas une deuxième équipe dans le Vieux-Nice, comme ça a circulé pendant assez longtemps, il y a d'autres rumeurs. Il y en avait une qui faisait état du fait que le camion était piégé. Donc là aussi, on a confirmé tout ça avec la police. Il n'était pas piégé. Effectivement, il y a des choses qui ont été retrouvées, mais il n'y avait pas de risque d'explosion. Il y a aussi eu à 25 km de Nice des rumeurs de coups de feu à Cannes. Donc là aussi, notre rôle, ça a été très vite de dire il y a ça qui circule, ce n'est pas vrai, on a fait des démentis qui avaient valeur de démenti officiel. Alors, l'autre élément de vigilance, bien entendu, et ça recoupe un petit peu le deuxième débat aussi, c'est tout ce qui tourne autour de l'image. On a vu circuler beaucoup de choses abominables en termes de vidéos amateurs, qui ont été balancées sur les réseaux. Alors, bien entendu, on n'en a relayé aucune. C'est de notre responsabilité. Même chose pour les images. On a eu des débats, hein, et des débats tout au long de la soirée qui a été très courte, hein, puisque c'est une parenthèse, mais on boucle habituellement ce matin vers 22h30 pour les premières éditions. On a repoussé le bouclage jusqu'à 3h du matin, de manière à pouvoir avoir 9 pages le lendemain dans le journal. Donc on a eu des débats sur les images, et on a veillé dans ces 9 pages et dans les images qu'on a diffusées sur Internet à rester dans la limite du supportable, avec des images respectueuses. L'image la plus quelque part la plus forte et la plus hard qu'on a choisi de publier, c'est l'image qui était en une de Nice Matin, Carnage à Nice, où on voit, on devine les corps sous les draps. On a beaucoup débattu aussi de cette image, mais on s'est dit à 2h30 du matin qu'il fallait quand même montrer l'importance de l'horreur, mais on n'a pas de, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas, et ça vaut pas uniquement par les images, hein, dans les récits. Moi, il m'est arrivé d'enlever des choses qui allaient trop loin, qui étaient racontées comme ça par les témoins, mais qui ne pouvaient pas être publiées en l'état. Parmi les difficultés, il y a eu aussi les fausses infos relayées par d'autres médias. Ça a été le cas, et certains s'en souviennent peut-être, de ce compte Facebook avec le même nom, hein, Mohamed de la Wesh Boulel, quelqu'un qui habite à Nice. Il s'est avéré que ce n'était pas le bon. Donc là, il y a eu notamment, je crois, une interview dans l'Obs ou sur l'Obs, où il a expliqué à quel point ça avait, il avait été harcelé et ça avait perturbé sa vie. Alors ça, c'est l'aspect piège et difficulté. À côté de ça, pour nous, les réseaux sociaux ont été un instrument formidable en termes d'information. Là aussi, en gardant toujours à l'esprit les règles de base du journalisme. Ça nous a été utile en termes de recherche d'infos, mais ça a aussi été utile, quelque part, à la population à travers les messages qu'on a pu faire passer, à la fois sur l'instant et dans la dimension solidarité qu'on a essayé d'enclencher dès le lendemain. Donc, par exemple, sur la recherche d'infos, c'est les messages des familles qu'on a repérés sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, et qui nous ont permis très vite de retrouver des proches et d'obtenir des témoignages le soir même et les jours suivants. C'est les réseaux sociaux et notamment Facebook qui nous ont permis de retrouver des acteurs du drame. Et je pense que tout le monde a en tête ce témoignage qui a fait le tour, hein, après sa publication sur 2 pages dans Nice Matin, du fameux Franck, un des héros, hein, celui qui avec son scooter a tenté de barrer la route au camion et qui a sûrement permis d'éviter d'autres morts en stoppant sa course. On l'a trouvé de manière très bête. C'est un papier qu'on a mis sur Facebook, et on a repéré un commentaire à ce papier, et ce commentaire était de quelqu'un qui disait c'est mon père. Donc là aussi, on l'a pas pris pour argent comptant, on a vérifié notamment auprès des services de police qui nous ont confirmé l'identité de ce héros, et c'est comme ça qu'on a pu raconter cette histoire qui a fait ensuite le tour de toutes les télés en France et dans le monde. C'est grâce aux réseaux sociaux aussi qu'on a pu remonter le fil des 86 victimes et qu'on a été en capacité, moins d'une semaine après, de publier un numéro spécial avec des éléments de portrait des 86 victimes. Et on a trouvé la plupart des gens et la plupart des familles grâce aux réseaux sociaux. Et dernier élément sur la dimension solidarité, on a choisi dès le lendemain, à Nice Matin, de dépasser un petit peu notre rôle d'information en lançant un groupe Facebook Solidarité Nice qui a permis dans un premier temps à des gens qui recherchaient des proches de relayer leurs recherches et de les faire connaître largement au-delà de ce qu'ils faisaient avec leurs propres moyens. C'est ce qui nous a permis de lancer une collecte au profit des victimes, qui a permis de réunir plus de 30 000 euros. Donc Si je devais faire le rapport entre les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, je pense que ce rapport est très largement positif, mais en n'oubliant pas, et j'insiste vraiment sur ce point, que les réseaux sociaux sont une source comme une autre, mais pas une source suffisante. Il faut vérifier, il faut appliquer tous les filtres du journalisme. Si on le fait, effectivement, les réseaux sociaux nous apportent beaucoup.
Merci. Ben, je vous propose... je ne sais pas si ça marche. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'opposé, j'allais dire, en termes de géographie, c'est-à-dire au niveau de l'agence internationale, donc que l'on s'interroge donc avec Grégoire Lemarchand sur la manière dont l'AFP a traité effectivement cette information, sachant que parmi les sujets, il y en a énormément, mais parmi les sujets, on a vu qu'un certain nombre de médias français avaient renoncé à montrer un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'images, parce que ça leur paraissait effectivement une précaution, un respect pour les personnes concernées, mais qu'un certain nombre de médias internationaux, en revanche, ont relayé ces vidéos. Je suppose que pour l'agence internationale qui est la vôtre, ça a été effectivement un sujet de savoir comment vous positionner par rapport à ces différentes attitudes concernant notamment les contenus des réseaux sociaux lorsque vous vous adressez à votre clientèle internationale.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je voulais juste dire que Denis Caro a développé tout un tas a expliqué comment Nice Matin avait travaillé avec les réseaux sociaux. Et en revenir, c'est cliché, mais c'est vrai, avoir toujours dans l'esprit les fondamentaux du journalisme. Et à l'AFP, c'est quelque chose que naturellement, on essaye d'appliquer avec la plus grande précaution, enfin avec exactitude en permanence. Pour ce qui est de Nice, mais comme aujourd'hui tous des événements d'ampleur mondiale, comme voilà toutes les séquences d'actualité très fortes qu'on a connues en France, c'est vrai que pour l'AFP, il y a quelque chose qui change beaucoup, c'est que autrefois elle avait le don d'ubiquité par rapport aux médias, par la force de son réseau. Aujourd'hui, l'AFP, c'est encore 1400 journalistes à travers le monde. Et j'allais dire, dans une ère pré-réseaux sociaux, elle était quand même en général ou souvent parmi les premières à non seulement apporter l'info, mais apporter aussi des images, apporter des photos. Aujourd'hui, voilà, je ne fais pas de dessin, tout le monde en a conscience, on a perdu ce don d'ubiquité. Et de toute façon, il y aura toujours des choses sur les réseaux sociaux instantanées, fortes, significatives, témoignant de nombre de ce qui se passe. Il y a encore quelques années, on n'avait pas forcément le bon réflexe, c'est-à-dire qu'on se disait, il se passe quelque chose, on va envoyer des reporters sur le terrain, puis si on voyait que c'était difficile ou qu'on mettait du temps à y aller, on se disait, tiens, il y a peut-être des choses sur les réseaux sociaux, on va les regarder. Voilà, c'est le vieux réflexe. Maintenant, tout est fait de façon complètement complémentaire, c'est-à-dire que il s'est passé quelque chose de grave à Nice. Immédiatement, on va déployer des équipes sur place le plus vite possible. Et on avait des journalistes présents à Nice, puisque l'AFP a un bureau là-bas. Et en même temps, on va tout de suite entamer un gros travail de recherche d'informations, de contenu, de témoignages sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, il faut... À notre échelle, il faut qu'on aille extrêmement vite, puisque ça se passe en France et qu'on est une agence de presse. On est une agence de presse internet en 6 langues. Donc beaucoup, beaucoup de nos abonnés sont pendus au fil de l'AFP. Et c'est vrai que là, il faut faire face à tout ce déluge d'informations, de contre-informations. Je reviens pas non plus là-dessus, parce que ce qu'a très bien dit Denis Caro sur l'ensemble des rumeurs, des hoax, des fausses infos relayées, etc., sans parler des photos de prétendus terroristes qui n'en étaient pas, etc. On voit, pour ceux qui ont l'œil un peu de spécialiste, c'est toujours les mêmes photos en plus, hein, qui reviennent, etc. Des montages plus ou moins grossiers, mais que des gens relaient, j'allais dire, sans scrupules, sans trop se poser de questions. Faut faire face à ce déluge de tweets, mais aussi aller regarder sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Enfin, il y a énormément de choses. Faut se démultiplier. Faut aller vite. Faut trier le bon grain de livret. Et c'est vrai qu'on est confronté à une fois qu'on a réussi à faire le tri, qu'on a vérifié les choses qui nous semblent, voilà, un tel nous dit cette vidéo est prise sur la promenade des Anglais, on va vérifier très vite parce que quelqu'un dans la rédaction a vécu à Nice, ou voilà, il y a tout un tas de méthodes. La question, c'est effectivement, et ça revient à la question que vous posiez, c'est on a vu très très vite surgir des vidéos à la limite du supportable, voire insupportable. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comme à Nice ce matin, comme dans toutes les rédactions, on se pose beaucoup de questions. Voilà, il n'y a pas de règle intangible. On ne se dit pas à partir du moment, je dis n'importe quoi, où on voit un corps, où on voit quelqu'un qui crie, etc. On se pose des questions en l'espèce à chaque fois. Les vidéos qu'on a vues, pour nous, étaient pas, on n'a pas souhaité essayer de les récupérer. Parce que toutes celles qu'on a vues ou qu'on nous a transmises, parce qu'effectivement... parfois on nous contacte différemment, pour nous n'était pas à la fois significative éditorialement et surtout était quand même très très dur à supporter. Et nous, on n'a pas pour c'est une demande des abonnés de l'AFP, on ne floute rien, parce que encore une fois, il y a les abonnés, c'est à travers le monde, ils ont un rapport différent, mais vous ne verrez jamais de photos floutées sur le fil de l'AFP. Après, si pour une photo qu'on appelle graphic content, quelque chose dur à supporter, de vraiment violent, ça, c'est de la responsabilité de l'éditeur de choisir de flouter ou pas. En l'occurrence, à Nice, tout ce qu'on a vu, on n'a pas jugé bon de rentrer dans une démarche pour récupérer la vidéo et la diffuser. Quand je dis une démarche de récupérer, c'est comme on est une agence de presse, comme on redistribue des contenus à des centaines, à des milliers de clients. Moi, je suis pas une chaîne télévision qui va prendre un contenu, l'accréditer du nom du compte Instagram ou du compte Twitter et diffuser. Nous, quand on va prendre quelque chose, au-delà de la nécessaire vérification qu'on doit faire, l'authentification, il faut qu'on contacte la personne, qu'on s'assure que c'est bien elle qui a pris, qui a filmé. Alors très souvent, non, c'est pas moi, c'est mon copain, ou je l'ai piqué sur Snapchat, ou je l'ai trouvé sur Facebook. Donc il faut continuer les démarches, et il faut lui expliquer que si elle consent à l'AFP la diffusion de cette vidéo peut se retrouver à peu près partout sur la planète, sur plein de sites internet, sur plein de télé, etc. Donc j'allais dire, c'est des démarches où on va quand même respecter l'auteur l'auteur de la vidéo, donc on fait pas n'importe quoi. Donc en l'espèce, sur le cas de Nice, on est resté, voilà, on n'a pas pris de vidéo, on a récupéré des photos, on a récupéré des vidéos, mais qui étaient plus des vidéos, on va dire, qui reflétant la panique, mais il n'y avait pas, on n'a pas de passage de camion ou des choses comme ça, voilà. Et c'est vrai que ça soit lors de l'attentat Charlie Perkacher, puis le 13 novembre, puis les attentats à Bruxelles et partout dans le monde, souvent on récupère de plus en plus maintenant, quasiment à chaque fois, des photos et des vidéos. Là, il se trouve qu'on a un photographe qui était à Nice le soir-là, qui arrive très vite sur place. Et j'allais dire, c'est pareil en termes d'illustration, de photos, on avait un matériel suffisamment significatif. On n'a pas eu besoin de chercher ailleurs. Et là aussi, mais ça, c'est l'œil du professionnel sur place qui a su tout de suite... qui a vu des choses très dures, naturellement, pour tous les gens qui étaient sur place assez rapidement, mais qui, a 20 ans ou 25 ans d'expérience, qui sait très bien où se situe la limite, du supportable. Donc, sur toutes ces séquences, finalement, les choses sont allées assez vite. Après, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que dans d'autres coins du monde où il y a des actualités tout aussi dramatiques, au Proche-Orient, en Afghanistan, en Afrique, en Somalie, on récolte énormément de vidéos, de photos extrêmement dures. C'est vrai que parfois c'est aussi culturel, parce que ce peut être des vidéos, des photos qu'on récupère sur les réseaux sociaux, mais aussi pris par nos journalistes là-bas. Ils ont peut-être un rapport différent par l'histoire de ces pays, je ne vais pas faire de psychologie à 3 francs 6 sous, donc j'arrête là, mais qui ont un rapport différent par rapport à ces contenus et qui vont diffuser peut-être des choses beaucoup plus dures suite à des scènes d'attentats-suicides, et que l'AFP va diffuser sur son fil. Je prends pour l'exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu en photojournalisme, il y a 4 ans, on a un photographe au bureau de Kaboul en Afghanistan qui a eu un prix Pulitzer. Donc c'est quand même très, 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 très fort dans la profession de photojournaliste, pour une photo d'une petite fille qui perd, qui est vraiment insoutenable en fait, qui perd tous ses proches dans un attentat-suicide lors d'une fête, je crois que c'est l'Ashura, une fête chiite à Kaboul. Si on avait eu le même type de photo... en France, à Nice ou à Paris, je ne sais pas si on l'aurait diffusé. Là, on l'a diffusé. Cette photo est le prix Pulitzer, donc on ne concourt pas pour les prix de photojournaliste, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais elle était significative, elle disait beaucoup de choses, elle racontait la situation terrible et dramatique de ce pays. Voilà, donc pour vous dire que y a pas, tous les cas sont différents, on se pose plein de questions, parfois on va d'un côté ou de l'autre, mais ces questions, on les a en permanence à l'esprit.
Merci. Question de Béotien, lorsqu'on a ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et que vous décidez de ne pas passer, mais quand un certain nombre de vos clients s'interrogent sur ces images, sur ces vidéos, est-ce qu'ils se tournent vers vous pour justement vous poser des questions d'authentification ?
Très sincèrement, non. Non. En général, ils sont dans une forme de pression, de précipitation, ils sont un peu dans la panique comme tout le monde, donc ils vont pas, ils font pas forcément appel à nous.
D'accord. Merci. Je vous propose maintenant qu'on passe alors à la situation donc d'un site d'information et d'un quotidien gratuit, donc qui est 20 minutes. On est effectivement un 14 juillet. Il n'y a pas forcément énormément d'effectifs peut-être à la rédaction de 20 minutes. Concrètement, comment ça s'est passé, comment avez-vous procédé, d'une manière générale, et plus précisément, qu'est-ce qui se passe de votre point de vue en termes d'informations à circuler sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites circuler vous-même vers les personnes qui vous suivent?
Oui, alors c'est vrai que la Tantanie, si on compare par exemple au Bataclan, on était dans une situation d'effectifs complètement différente. D'un côté, vous avez un événement qui se passe à Paris, qui est le siège de médias nationaux, internationaux, dans des quartiers qui sont majoritairement habités par des journalistes, on va dire. Il y a beaucoup de journalistes qui habitent dans le 10e, le 11e, donc il y en avait qui étaient sur place tout de suite. De la même manière qu'à Nice, il y avait des journalistes locaux pour vérifier l'info. Là, on est en plein cœur de l'été, un jour férié, plutôt dans la nuit, même si le Bataclan et les attentats de Paris et Saint-Denis, ça s'est passé aussi dans la nuit, on est dans une configuration complètement différente. Donc malgré tout, il y a toujours des personnes qui alertent. Donc dans ces cas-là, on appelle tous ceux qui sont disponibles ou pas disponibles, parce que ils rentrent de vacances, ils se lèvent. Et évidemment, dans les urgences à passer, on donne l'info et on la donne sur le maximum de plateformes possibles. Pour vous situer un petit peu l'importance des réseaux sociaux pour un site comme le nôtre, c'est un tiers de notre audience passe par les réseaux sociaux, essentiellement Facebook et Twitter. Mais dans ces cas-là, on essaye de diffuser, y compris l'alerte sur LinkedIn. Vous pouvez avoir des gens qui sont connectés sur LinkedIn à ce moment-là. Nous, notre credo depuis le début, ça a été de se mettre là où les gens passaient, alors sur les transports en commun, dans la rue, où on était diffusé comme un quotidien papier. On a exactement la même logique. Donc on passe une alerte sur Snapchat, on passe évidemment d'abord l'info au maximum sur Twitter et Facebook, avec des codes d'alerte, c'est-à-dire qu'on met alerte info, on met un point rouge, et on donne l'info dont on est sûr, donc évidemment regrouper. Et ça, on fait extrêmement attention, on préfère passer moins, mais passer ce dont on est sûr. On donne des numéros d'alerte aussi, des numéros d'urgence, dès qu'on les a. Ça, c'est un service élémentaire à rendre aux personnes qui nous suivent. Hein. Ils ont peut-être des proches, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc on les donne aussi. On peut retweeter ou rediffuser de l'information de comptes officiels de police, de gendarmerie, enfin des consignes s'il ne faut pas sortir. Voilà, donc ça, c'est la première chose, c'est donner l'info essentielle, effectivement, back to basics, hein, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être important pour la sécurité des personnes. Et après, on va, ça paraît idiot de dire ça, on va empêcher aussi la circulation de l'info. C'est-à-dire de l'information qui n'est pas directement liée à un attentat, sur les flux qui, la nuit, peuvent être automatisés, puisque vous n'avez pas une personne toujours devant l'écran, mais ça peut, il peut y avoir des programmations qui vont se déclencher parce que on parle d'un film un mercredi matin, ou voilà, vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez une part de robotisation et de programmation. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire à quelqu'un dans une situation d'attentat de voir un papier extrêmement léger et pripsautier sur une comédie romantique au cinéma. Donc ça, on va bloquer, en fait. Le premier réflexe, c'est passer l'info. Le deuxième, c'est vérifier tout ce qui est dans la file d'attente des réseaux sociaux, de bloquer leur diffusion. Et on a effectivement ce qu'on appelle notre procédure attentat sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on va ne passer dans un premier temps que les informations liées à cet événement. On va avoir un système de mots-clés pour accélérer la diffusion si on choisit à un moment donné de l'automatiser, puisque en fonction des forces en présence animées, Facebook, Twitter, un peu LinkedIn, bon, même si ça ne va pas être là-dessus qu'on va diffuser le maximum d'infos. On a aussi un compte Instagram, un compte Snapchat, des chaînes vidéo, ça fait pas mal. Donc voilà, on va passer dans des modes urgents, identifier les hashtags, essayer de répondre effectivement aussi rapidement aux personnes, parce que de la même façon, on va avoir beaucoup de personnes qui vont nous contacter en disant « Est-ce que c'est vrai ce qui se passe là ?» Donc ça peut être dans les commentaires, ça peut être... dans la messagerie privée, donc on essaie de répondre aussi au maximum et d'empêcher la circulation de certaines infos. Donc voilà, ça c'est notre première procédure qui malheureusement a été un petit peu rodée ces derniers temps puisqu'on a dû adopter ce mode-là. Et après, ben, on essaye de répondre au maximum aux besoins enfin, d'informations des internautes. Donc c'est vrai que l'article qui est généralement le plus lu, le plus partagé, c'est tout simplement notre live de la situation, où on a aussi un article qui est actualisé, enfin, avec les dernières informations qui remontent. Après, il y a aussi savoir qui sont les victimes, où en est l'enquête. Et on essaye aussi d'utiliser, d'être très vigilant sur les commentaires et tout ce qui peut se greffer sur les réseaux. Surtout que sur Nice, on a eu du boulot sur les commentaires. Sur le Bataclan, on était de manière très surprenante, alors qu'on a quand même une communauté Facebook d'à peu près 2 millions de personnes. Sur le Bataclan, on a eu un travail de modération qui était, même s'il y a une modération externe, qui était assez léger parce que les gens étaient vraiment dans le saisissement, dans la retenue, dans l'hommage aux victimes et dans quelque chose de très respectueux. Une fois que vous avez le Bataclan, les attentats de Bruxelles, que vous avez Istanbul, que vous avez un certain nombre d'événements tragiques, arrive Nice, où il y a des familles, où il y a des enfants, je peux vous assurer que la parole s'est libérée, et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était extrêmement violent ce qui se passait. Et que sur le Bataclan, le boulot qu'on a eu surtout à faire en modération, ça a été supprimer les photos de l'intérieur du Bataclan que certains trouvaient malin de poster. Parce que ça, on ne veut pas que les gens le voient et on ne veut pas que ce soit sur notre page. C'est quand même du boulot parce qu'il y a 20 000 commentaires par jour sur notre page Facebook. Donc c'est assez ample. Et sur Nice, on a dû vraiment faire un travail de modération assez intense, pas extrêmement sympathique à faire, parce que, et ça c'est aussi un aspect auquel on fait très attention sur les réseaux, c'est le côté mesure de l'émotion. C'est pas que c'est un moyen important pour s'informer. Donc je vous dis, c'est un tiers de notre audience. Sur certains papiers, ça peut atteindre 60% du trafic qui vient par Facebook et Twitter, surtout Facebook. Mais c'est aussi l'expression des gens. Donc pour le Bataclan, je fais un petit peu... Je vais souvent peut-être parler du comparatif, mais c'est vrai que ça nous a surpris nous-mêmes. Quand le Bataclan est arrivé, on a reçu par mail, par les commentaires, des photos d'hommages, des bougies, des mots, des poèmes, des vidéos, des chansons. Il y a eu vraiment une émotion intense, terrible, et qui était de l'ordre de la communion, on va dire de la communion collective. On a passé un temps important à mettre en valeur ces hommages, à les dire, vous pouvez les déposer, vous pouvez vous exprimer, ces pages, c'est les vôtres aussi. Donc on les a mis sur le compte Instagram, on a fait des articles à partir de ces hommages, de ces dessins, on les a mis sur Facebook, on a fait des diaporamas. Et à mesure que, malheureusement, que les attentats se multipliaient, par exemple sur Nice, on a eu très peu de contributions, et je ne pense pas que c'est parce que les gens ne s'intéressaient pas à ce qui se passait, c'est qu'il y avait on était plutôt dans quelque chose dans la colère, on va dire, et que là, c'était un peu, voilà, ça suffit. Il y avait eu trop d'événements brutaux qui s'étaient imposés à nous à ce moment-là. Et c'est ces espèces de signaux qui sont des signaux quand même aussi de la société, parce que Facebook, vous avez une représentation extrêmement variée, vous avez tous les âges, il y a beaucoup de seniors aussi qui sont sur Facebook, il y a des gens extrêmement variés. Twitter, c'est un petit peu plus CSP+, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui s'expriment. Et ça, nous, en tant que journalistes, ces signaux-là, on y est aussi extrêmement attentifs pour savoir, pour réfléchir à quel type d'infos on délivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se censurer, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est aussi qu'est-ce qui peut être interprété. Est-ce que ça en met, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est écoutable, est-ce que c'est recevable, est-ce qu'on va pas amplifier des phénomènes qu'on n'a pas forcément envie d'amplifier. Et de ce côté-là, au-delà des informations qui peuvent circuler, il y a quand même un côté émotion sur les réseaux, des émotions assez différentes, hein. Vous pouvez pas comparer effectivement un réseau professionnel comme LinkedIn, mais il se trouve qu'on a passé des portraits de victimes sur LinkedIn et que vous avez des collègues de travail hein, qui s'exprimaient à ce moment-là et qui ont besoin de s'exprimer. Donc on leur donne aussi cet espace-là. Mais voilà, c'est aussi vecteur d'émotions belles, mais aussi extrêmement violentes. Donc ça, il faut nous qu'on soit à l'écoute aussi en tant que journaliste.
Excusez-moi, est-ce que vous faites appel à une société aussi qui vous aide à modérer les commentaires?
Oui. Ah oui, oui.
Là, spécifiquement sur cet événement, est-ce que vous avez fait ça, entre guillemets, à deux, vous et eux, ou pas?
Oui. Alors, on fait toujours à deux. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'avec 20 000 commentaires, c'est un flux instantané, donc ils ont leur priorisation. Eux-mêmes, ils passent en procédure attentat, c'est-à-dire qu'ils sont... on fait appel à Netino, qui est une société qui modère pas mal de médias. Ils sont habitués à renforcer leurs équipes face à des événements comme cela. Et après, c'est vrai que nous, quand on voit des choses... Enfin, ils modèrent, mais vous savez, vous avez la modération et le temps de modération. Moi, si je passe sur la page... je vois un commentaire qui vraiment sort des clous, je le supprime tout de suite, j'attends pas en me disant Natino va passer. Et on est aussi extrêmement strict, c'est-à-dire qu'il y a eu des dérapages où là c'était on a suspendu les commentaires, enfin en gros on bannit, c'est-à-dire que la personne peut plus du tout déposer de commentaires et on n'a aucun état d'âme, quoi, parce qu'il y a des choses qui pour nous ne passent pas.
Là on voit bien le travail que vous faites par rapport aux internautes. Mais on a entendu tout à l'heure deux responsables de rédaction qui nous parlaient de leur journée, de l'interrelation qu'ils avaient avec leurs journalistes sur le terrain. Dans votre cas, en fonction de ce qui circule sur les réseaux sociaux, des différents éléments qui vous parviennent, comment vous travaillez? Vous avez des journalistes sur place? Comment vous, concrètement, vous faites la vérification?
On a un bureau à Nice. Donc il se trouvait qu'il était encore ouvert, qu'il n'a pas fermé... ce soir-là, donc d'habitude on a deux personnes, bon là il y en avait qu'une, et on a un bureau à Marseille. Donc comment ça s'est passé? Évidemment on a appelé la rédaction de Nice, on a aussi appelé Marseille pour prendre le relais, parce que venir de Paris, faire Paris-Nice, bah, c'est des heures, hein. Donc si c'est 5 heures, 6 heures, c'est 6 heures de perdu. Donc l'idée c'était de déplacer les personnes qui étaient au plus près géographiquement. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on ouvre... Il y a des personnes qui sont affectées au desk. C'est-à-dire que c'est elles qui vont guetter sur les réseaux, et sur, de manière générale, sur voilà, l'AFP, enfin, toutes les informations officielles qui vont être contactées. Et elles servent d'aiguilleurs. C'est-à-dire que la personne qui est sur place, elle est là pour recueillir l'info sur place, faire du reportage. Et en fonction de ce que nous, on va recevoir au desk, on va éventuellement l'orienter. Et on va d'abord quand même faire... gros checking sur place, c'est-à-dire que toutes les vérifications policières se font plutôt à Paris, parce que le travail de la personne sur place va plutôt être d'être au contact des habitants, des personnes touchées, d'aller dans les hôpitaux pour savoir comment ils travaillent, enfin, d'être vraiment au cœur du reportage. Et à ce moment-là, on muscle, enfin toute la rédaction d'ailleurs, de manière générale, on laisse tomber tous les autres articles dans le cadre de cet événement, et tous ceux qui peuvent rentrer, ceux qui peuvent travailler chez eux, même s'ils sont pas sur place, le font, enfin voilà.
D'accord, merci. Maintenant, je vous propose qu'on change, je dirais, un petit peu de d'angle, c'est-à-dire que l'on parte vers un média qui, lui, s'adresse à un public qui n'est pas immédiatement au contact de l'événement, qui a effectivement un journaliste à Paris, donc en l'occurrence Radio-Canada, et puis qui est un média qui a aussi l'expérience d'avoir eu à traiter un certain nombre d'attentats, à la fois en France, en Europe, en Amérique du Nord, et qui, je crois, est en train de travailler à une charte où, justement, ces questions de relations et de manière de travailler sur les réseaux sociaux est au cœur de ses préoccupations. Et Sylvain Desjardins, qui est avec nous, je crois, d'après ce qu'il m'a dit, a participé à ce travail de réflexion sur cette charte. Donc peut-être d'abord un peu de factuel, nous dire comment les choses se sont passées ou comment se passe en général dans le traitement des attentats par rapport donc à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis après, peut-être de nous parler quelque peu de ce travail que vous faites au niveau de cette charte.
D'accord. Bonjour. Ça fonctionne ? Oui. Alors, écoutez, en deux mots, d'abord, je vais vous avouer candidement que je n'étais pas à Nice quand les événements se sont produits. J'étais, comme tout le monde, une partie du monde chez nous, en vacances. On a dépêché sur place deux personnes rapidement, une personne qui était basée à Bruxelles, une autre qui se trouvait être à Paris en vacances, et qui ont pris la relève de mon collègue et moi, qui sommes les deux correspondants ici pour Radio-Canada à Paris, en France et puis sur toute l'Europe. Et je leur ai parlé pour voir comment ça s'était passé, s'il y avait des anecdotes particulières à raconter. Ce qu'on m'a dit, c'est que, bien sûr, il y avait cette profusion, comparativement à d'autres événements, de contenu qui circulait sur les médias sociaux, qui était ahurissant, qui était donc très difficile à gérer. Donc, ils ont choisi de ne pas en faire mention d'aucune manière. Ils se sont servis, comme on doit faire, je pense, dans des événements comme ceux-là, les informations qui circulaient tout simplement sur les réseaux sociaux comme source potentielle d'information et non pas comme information à rediffuser. Je sais qu'ils ont consulté beaucoup votre page Facebook de Nice Matin et que ça a été jugé très utile, en particulier pour casser les rumeurs, justement. Alors, ils s'en sont tenus au travail de base, encore une fois, je répète des choses qui ont été dites qui sont fondamentales ici, que ce soit dans le traitement d'informations qui proviennent de ces réseaux sociaux ou autrement, c'est toujours les bonnes vieilles règles de base de journalisme qui doivent s'appliquer, c'est-à-dire vérification. Et si on obtient des témoignages de gens qui disent avoir vu, eh bien, si on n'a pas la certitude qu'ils l'ont vraiment vu, ben, on va utiliser ce bon vieux conditionnel pour se protéger et puis pour aussi mettre peut-être le petit recul, la petite nuance qui est nécessaire. Pendant les événements, par ailleurs, je dois vous raconter une anecdote qui, je pense, va vous intéresser du point de vue de la production. Je n'y étais pas encore une fois, mais mes collègues, imaginez, qui sont à Montréal, qui sont en train de faire une diffusion, et tout le Canada français, même le Canada entier, regarde ce qui se passe, bien sûr, en France. Et donc, leur mission, c'est d'essayer de témoigner de ce qui se passe à distance, bien sûr, et au début, il n'y a aucune source d'information disponible, sinon une photo très floue d'un camion de loin. Alors, sur notre chaîne continue, on a quelques chaînes de télé comme vous avez ici en France, la chaîne publique. Il y a le réseau qu'on appelle RDI, donc le réseau d'information, qui est l'équivalent d'une BFM ici ou de France 24, si vous préférez. Et puis, la personne qui était responsable de commenter les contenus qui provenaient des réseaux sociaux à l'antenne me dit à un certain moment, tout à coup, donc il y a cette personne qui débarque sur la promenade des Anglais avec son appareil et qui se met à filmer tous ces cadavres par terre, des corps disloqués, de scènes effroyables, et qui donc nous balance ça sur les réseaux sociaux. Elle dit, moi, personnellement, ma réflexion, tout de suite, ma réaction, c'est de dire, on ne diffuse pas ces informations. Ces images-là, donc, zappent au monteur, on ne met pas ça en onde. Au même moment, pendant donc cette diffusion, il y a un chef d'antenne qui lui est en train d'interviewer un analyste pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et une personne en autorité, probablement un réalisateur en régie, décide lui que cette information-là, de ces images qu'on voit de victimes, vont permettre de mieux comprendre l'ampleur du drame. Et donc, par définition, comme dans chacun des codes d'éthique de chacune de nos boîtes, où on travaille, on dit bien qu'on veut aussi refléter la réalité. Ensuite, on exerce un jugement à savoir si ça va trop loin. Lui, ça a été le réflexe, dans l'urgence, de toute bonne foi, je crois, de diffuser certaines de ces images-là. Or, notre chef d'antenne, qui était en train de discuter avec son invité, a vu sur son écran témoin que donc l'écran était divisé en deux, qu'il y avait lui et son invité, et puis qu'il y avait des nouvelles images qui défilaient. Et lui est intervenu directement en onde pour dire « Je ne crois pas qu'on devrait montrer ces images. Ça va trop loin. » Et les images ont été retirées tout de suite. Et les personnes qui étaient en autorité donc ont dû faire amende honorable. Ça s'est fait très, très rapidement. Je vous raconte ça parce que tout le monde s'est dit à l'interne, on va se faire attaquer demain dans tous les journaux. Or, ce qui s'est produit, c'est exactement l'inverse. Je lisais dans le journal Le Devoir qui faisait un grand article le lendemain sur que faut-il montrer, est-ce qu'il y a des images trop brutales devraient être cachées, est-ce qu'il faut éliminer tout ce contenu des journalistes citoyens, entre guillemets, qui sévissent comme ça, sans filtre. Et sur la portion de la couverture qui avait été faite à ce réseau, à RDI, donc de Radio-Canada, on dit on a rectifié le tir en direct et on ne met l'emphase que sur ce qui s'est passé et sur la réaction à l'antenne du chef d'antenne. Et on mentionne bien qu'aussitôt que les images disparaissent, le chef d'antenne dit merci à sa régie et que ces images ne sont plus jamais montrées. Donc on a exercé un jugement et on en a fait la démonstration, c'est ce qu'on retient. Et donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu craindre. On en convient, c'était une erreur, tout le monde dans la boîte nous le dit, mais c'est une erreur qui a été faite de bonne foi. Il y a deux autres exemples que je vais vous souligner, parce que dans mon approche un peu terrain, de se poser ces questions. Lors de ce même événement, un homme livre à chaud son témoignage, sa femme est à côté de lui, elle est morte, mais son enfant aussi. Et... il dit qu'il vient de perdre sa femme. Il dit, voilà, ma vie est perdue. C'est fini pour moi. Ça a été diffusé sur une chaîne française. Et puis, il y a aussi, dans les minutes qui ont suivi, des images assez effroyables aussi, assez insupportables, qui ont été diffusées sur ces cadavres qui jonchaient le sol et des mares de sang. Dans le premier cas, si je vous transmets ma réflexion comme producteur de contenu sur le terrain, je vous dirais... C'est une interview qui est terrible à entendre, c'est un témoignage très dur, mais avec une certaine mise en garde auprès de l'auditoire, je la diffuserai parce que c'est livré par une personne qui vit le drame et qui permet à l'auditeur de comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Dans le cas des images, bien sûr, on s'entend tous avec ce que vous avez entendu pour dire que ça va trop loin, même si on avait diffusé une mise en garde à l'avance pour dire aux gens « méfiez-vous », le contenu peut être choquant. Il reste qu'il peut y avoir des conséquences traumatisantes. Et là, ça dépasse donc ce qui, à mon avis, devrait être diffusé, ce qui est acceptable. Quoi. Un ancien directeur général d'information chez nous a été interviewé sur cette question-là dans les jours qui ont suivi. Et lui disait « ça oblige les médias professionnels à agir de manière encore plus rigoureuse ». Les réseaux sociaux, de toute façon, ont gagné cette bataille d'être les premiers sur la nouvelle. Et les médias traditionnels, on est derrière. Mais ceux qui vont durer sont probablement les médias qui seront capables de contextualiser les informations, d'expliquer les choses, pas ceux qui sont les premiers à montrer une vidéo d'un camion qui fonce sur les gens. Et donc, c'est le rôle, en particulier, qu'on se donne, nous, à la télévision ou à la radio publique, de mettre en contexte, d'expliquer pour... je dirais, justifie notre existence par rapport à l'entreprise privée. Une autre question qui se pose, et à mon avis, elle mérite d'être soulignée, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais une étude qui a été faite par un professeur en économie en Australie qui s'était penché sur le sujet, quel est l'impact d'une couverture médiatique mur à mur des attentats en général sur la perpétration de nouveaux attentats? Et lui arrivait à la conclusion, après avoir recensé 60 000 attentats entre les années 1970 et 2012, que la publication d'un article supplémentaire sur un attentat conduit à l'augmentation de 11 à 15 % du nombre d'attentats dans ce même pays dans les jours suivants. Alors, il conclut, il me semble y avoir un lien de causalité entre la quantité de reportages qu'on fait sur le terrorisme et la quantité d'actes terroristes qui sont commis par la suite. Et là, il se pose la question dans son étude, peut-être qu'il faudrait couvrir moins les attentats. Et ça, c'est un point de vue universitaire, on pourrait toujours débattre, on a débattrait longtemps. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais il invitait donc les médias, lui, dans son étude, à reconsidérer leur manière de parler de ces événements-là en disant il faudrait peut-être en parler juste moins pour ne pas encourager les imitateurs. Moi, je vous dirais, petite réflexion, petite parenthèse, dans certains cas, c'est une évidence. Je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, on a décidé depuis longtemps d'arrêter de couvrir, par exemple, les suicides dans le métro, parce que ça n'avait qu'un seul effet, entraîner d'autres suicides dans le métro. Et sur le plan de l'information de fond, de base, pour le grand public, ce n'était pas de nature absolument essentielle. Donc, le choix se fait facilement. Mais je suis trop long, hein? Excusez-moi.
On aimerait bien vous entendre parler sur votre projet de charte.
Je voulais juste terminer en disant qu'il n'est pas possible, à mon avis, de couvrir modérément ces choses-là. Malheureusement, les machines s'emballent aujourd'hui, surtout avec les chaînes d'information continues. Loin de moi l'idée de prendre trop de temps, je m'en excuse. Donc, actuellement, il y a une révision qui est en cours. Je n'y participe pas, de notre code de pratique journalistique, qui s'appelle « Normes et pratiques journalistiques, notre code d'éthique à Radio-Canada ». Et le code actuel, donc, dit bien que, peut-être à l'image de ceux des autres médias qui sont présents ici, que les documents qui sont d'une source extérieure aux diffuseurs, donc dans notre cas Radio-Canada, sont, s'ils sont diffusés, après vérification, toujours identifiés comme tels. Et dans de très rares exceptions, s'il arrive que nous décidions de publier un document avant d'avoir pu vérifier d'avoir fait toutes les vérifications d'usage, eh bien, le public sera informé de la source et de ce qu'on a fait comme recherche. Et donc, sur les questions de couverture de scènes de violence en particulier et de souffrance, la règle de base, c'est de dire ces événements, cette réalité fait partie de la vie et nous, comme journalistes, on doit la refléter et en parler. Mais bien sûr, il y aura toujours cet exercice de jugement à superposer par-dessus sur les questions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les risques de traumatisme pour l'auditoire, puisque nous sommes ceux qui l'envoyons en ondes, contrairement à ceux qui peuvent le produire, par exemple, pour une agence et qui laissent à leurs clients le choix de le faire, ou alors des journaux qui ont peut-être davantage de temps avant la publication. Mais les sources de réflexion actuelles, c'est peut-on se priver de ces sources d'informations qui sont extrêmement qui sont prolifiques, qui sont nombreuses, qui sont donc souvent précieuses? De quelle manière doit-on les traiter? Et puis, quelles sont aussi nos responsabilités en tant que diffuseurs dans les échanges avec le public, puisque maintenant c'est devenu automatique, vous le savez, quand on diffuse, il y a de la place sur nos plateformes pour l'intervention du public, et dans certains cas, ça appelle aussi des réponses, des justifications ou des clarifications. Jusqu'à quel point on s'engage dans ce dialogue, comment peut-on le baliser, ça fait partie des sources de réflexion actuelles dans la révision qui est menée.
Merci. Alors, on a évoqué, même si ça n'a pas été très appuyé, mais la question de fausses informations, la question de rumeurs qui commencent à partir à propos de ces attentats, et généralement, effectivement, on accorde aux réseaux sociaux une responsabilité ou un rôle particulier dans cette diffusion des rumeurs. Donc Nicolas Van Der Vist a travaillé sur ce sujet, il s'est exprimé sur ce sujet, ça nous intéressait beaucoup d'avoir sa réflexion déjà sur la relation qu'il établit, lui, entre ces phénomènes de réseaux sociaux qui travaillent pendant, qui font circuler l'information pendant que l'événement se produit, puis après, et effectivement le développement de ces rumeurs. Mm-hmm.
J'ai bien écouté tout le monde, j'ai pris des notes par rapport à ça, et je vais essayer de rebondir, comme ça on pourra parler des rumeurs, mais en même temps du traitement journalistique de la chose. Ce que j'ai beaucoup entendu, c'est flot de rumeurs, flot des réseaux sociaux, flux énorme, etc. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à Nice,
pas forcément à Paris, c'est pas des CSP+ qui sont là avec leur smartphone, donc on a moins de production. Il est 23h, donc on a beaucoup moins. Et donc, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément. Mais évidemment, pour un journaliste, pour les médias, c'est évidemment pas habituel. C'est inhabituel, un flow comme ça. Mais bon, moi, je traite environ ce genre de cas d'entreprises qui sont attaquées ou de la société ou autre, au moins 100 fois par an. Donc pour moi, ce n'était pas énorme. Je n'ai pas été pris de court ou avec un flow incessant. Je vais donner simplement des petits chiffres. Par exemple, les rumeurs autour des prises d'otages. Hein. Les prises d'otages, alors il y a eu 3 foyers, on peut parler comme ça. Il y a eu le Buffalo, il y a eu le Negresco et il y a eu le Méridien. Si on prend le Buffalo, il y avait 307 tweets originaux. Il y en avait 3310, mais 307 tweets originaux, 150 caractères. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait, à lire. 105 tweets originaux sur 3865 pour le Negresco, 148 originaux sur 1410 pour le Méridien. Et si on prend tout le phénomène des prises d'otages, uniquement avec les prises d'otages, on est en 1992, j'essaie de switcher, sur 23641. Et en fait, ça pose une question qui est importante, c'est la question du filtre. C'est-à-dire que oui, il y a un flux incessant, oui, il y a beaucoup de suites, mais pas forcément sur les domaines qui nous intéressent, pas forcément sur l'information qu'on cherche à infirmer, à confirmer. Donc si on filtre déjà, ne serait-ce que avec la géolocalisation, avec le fait que ça soit en français, avec d'autres choses comme ça, on peut déjà enlever ce bruit pour avoir quelque chose de beaucoup plus court. L'autre point, ce qui a changé particulièrement avec les réseaux sociaux, c'est la question du témoin primaire, témoin secondaire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux arrivent comme une couche. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça n'existe pas comme ça. Et les gens sont dans la vraie vie, ils regardent, ils entendent des choses, il y a des SMS, il y a des coups de téléphone qui s'échangent. Et donc, en fait, la personne qui parle sur Twitter n'est pas forcément elle qui voit en premier l'événement. Et elle a l'impression qu'elle a une information solide. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui envoie un SMS pour dire qu'il y a une prise d'otage. Et la personne est à Nice. Hein. Elle est à Nice. Elle est présente. Elle me confirme. Donc c'est certain. Et donc elle tweet prise d'otage. Donc c'est cette question de témoin secondaire qui est très importante et qui, à mon sens, ne peut pas être éludée. Mais ce n'est pas quelque chose qui est propre aux réseaux sociaux. Puisque, particulièrement à Nice, les rumeurs, en fait, elles ont un pic et elles naissent à partir du moment où, en fait, ce sont les chaînes d'information continue qui en parlent, qui l'évoquent en télévision. Et ils ne l'évoquent pas simplement comme ça. C'est avec un témoin qui vient devant la caméra et qui nous dit « voilà, il y a une prise d'otage ». La personne, en fait, n'a pas faux. Et j'ai beaucoup étudié ces phénomènes de mouvement de foule autour des rumeurs, des faux événements, des mouvements, tout ce qui est foule. Et on a toujours, premièrement, un micro-événement qui se passe. Et il se passe réellement. C'est-à-dire que le fait est réel. Une explosion, un attroupement de gens. Ici, on a parlé, effectivement, il y avait des gens qui étaient enfermés. Il y avait la police devant. Et donc, en fait, cette surcouche agit comme une preuve du fait que c'est une prise d'otage. C'est-à-dire que j'ai des éléments. Je prends un autre exemple, mais au moment du Bataclan, il y a eu comme ça des mouvements parce qu'il y a eu un pétard. Il y a eu un pétard, voilà, il y a une explosion. Et puis après, il y a quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, il y a une fusillade ». Quelqu'un lui dit « Enfin, où est-ce que tu as entendu ?» etc. « Tu mens ?» Et elle répond « Et ça, c'est quoi ?»« Hein, je mens ?» Et elle filme, en fait, un hélicoptère qui est dans le ciel. Et pour elle, en fait, le fait qu'un hélicoptère est dans le ciel confirme le fait que pour elle, il y a eu une fusillade. Et donc, il y a vraiment ça qui agit. On peut prendre, c'était un peu plus lointain, j'avoue, mais le cas de l'acteur Anglade, dans le Thalys, qui lui aussi, il voit quelque chose, il témoigne, etc. Mais en fait, la personne n'a rien vu. Elle était beaucoup trop loin pour voir, elle était trop loin des événements, mais c'est elle qu'on entend parce qu'évidemment, elle est célèbre. Et donc, c'est cette question entre témoin primaire et secondaire qui est une tension permanente, à mon sens. Autre point important, c'est-à-dire que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui demandent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai ? Et je trouve que c'est quelque chose d'assez frappant et qui est problématique. C'est-à-dire qu'elle est problématique pour la presse, elle est très avantageuse pour les autorités. C'est-à-dire que les attentats, ça commence à être un phénomène qui est dans les gens. Les gens, en fait, sont alertés. Il y a une voiture en double fil. Tiens, ça c'est, on va quand même dire à la police que, hop, on trouve des bonbons de gaz. Donc, il y a une population qui est alerte. Mais le problème, c'est que comme elle est alerte, elle veut donner l'information, elle veut agir, mais de façon totalement bonne, mais mauvaise. Parce qu'ils disent, voilà, ils veulent dire « restez chez vous ». Absolument, on trouve beaucoup des messages comme ça, « restez chez vous ». Il y a une prise d'otage, restez chez vous, etc. On imagine toujours l'attentat multisite, Donc ça devient des pros du terrorisme, ils peuvent presque aller sur BFM TV, quoique c'est déjà presque le cas. Et on a vraiment ça à l'intérieur, le question de est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que c'est vrai ? Autour des attentats de Nice était orienté non pas vers les autorités, ça c'est problématique pour les autorités, mais vers les médias. Comment est-ce que je l'interprète ? Donc concrètement, c'est des gens qui, plutôt que de tweeter à Place Beauvau, est-ce que vous avez pas vu, est-ce que vous confirmez ou autre, ils demandent directement l'information BFM TV. Ou alors ils voient quelque chose et ils l'envoient à BFM TV. Donc pas à la police, pas aux pompiers, pas au 112, rien. Non, à BFM TV, à iTélé et autres. Et ça, c'est assez frappant. Et je trouve que ça fait écho à cette chose sur Facebook où on demande est-ce que c'est vrai. Et à mon sens, ça naît du fait que il y a, par les événements et la succession des événements, un lien de confiance qui s'est installé entre les médias et les gens. Un lien tacite de « je peux te donner des informations, tu peux me donner, on est tous dans le même moule, on fait la guerre ensemble ». Je prends vraiment l'image comme ça. On l'a fait. Et ça, ce lien de confiance, il est très important, à mon sens. Et pourquoi ? Parce que ça veut dire vraiment que le journaliste devient quelqu'un de confiance. Et c'est très important. Et donc, pour moi, le journaliste doit comprendre, et je pense qu'il a déjà compris ou qu'il est en train de le comprendre, qu'il n'est plus la personne forcément qui doit annoncer l'événement, mais celui qui doit la confirmer. Il se replace dans la chaîne de l'information. Et ça, ce lien de confiance, il est très important. Et j'en reparlerai un peu par la suite. L'autre chose que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est toujours les mêmes images. Les images, c'est les mêmes qui circulent. On les connaît par cœur, toutes les intocs, etc. C'est aussi toujours les mêmes histoires. Par rapport à ça, je trouve que le journaliste, il a un devoir par rapport à tous ces événements de les connaître. C'est-à-dire que typiquement, il y a des schémas narratifs et des images qui reviennent encore et encore, et ça, il doit le savoir. Je prends des exemples. Les fusillades, les prises d'otages, etc., c'est un cas de rumeur qui se déporte à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a la rumeur de la prise d'otage qui survient. De la même façon, après les attentats, il y a toujours l'extrême droite qui arrive à faire monter en trend topic le fait que non, pas d'islam en France, et donc d'exacerber des tensions, avec juste 2000 personnes qui font un bruit. C'est des choses qui reviennent à chaque fois. Donc si le journaliste sait que ça arrive, il peut se dire « c'est comme d'habitude ». Et donc là, pour moi, il a un devoir. Ensuite, il y a la question de l'image, et je terminerai là-dessus, faut-il couvrir ou pas par rapport aux réseaux sociaux ? Alors là, du coup, on sort un peu de ma zone de confort, parce que moi, au départ, je viens du mal, je viens de la communication. Pas du tout du journalisme, donc j'ai choisi le mauvais côté. Et donc, heureusement, chez nous, on a quelqu'un qui est très bon là-dedans, qui s'appelle Benoît Grévis, à la déontologie. Donc je lui ai posé des questions de ce que moi j'observais, ce que lui voyait en 1.0. Il est très au fait, il a un compte Twitter, etc. Il n'y a pas de souci. Mais donc, quand je lui posais simplement la question, oui, mais c'est présent partout sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que la presse ne peut pas le faire ? Il disait, oui, c'est vrai, c'est une question, c'est une vraie question. Et puis après, moi, j'ai décidé d'inverser la question, c'est que je lui ai posé, mais avant, on avait un autre média qui publie une photo. Une photo qui est porteuse d'informations, mais qui pose le problème, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre information et les personnes, les gens, la protection, etc. Et il y a toujours ce balancier. Et si on estime qu'un autre média, selon lui, a un problème déontologique, on ne le reproduit pas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, en fait, puisque si les réseaux sociaux peuvent être considérés comme un concurrent des médias, pourquoi est-ce que j'irais publier quelque chose qui est partout sur les réseaux sociaux, mais qui est déontologiquement mauvais ? Et donc, voilà. Mais c'est clair que toutes ces questions de fausses informations, de flux, d'orchestration aussi, parce qu'il y en a, c'est une question qui est vraiment nouvelle et qui est trendy.
Merci. Alors, en fait... On est à plus d'un mois là, de l'événement, on est ensemble là pour en discuter. Vous nous avez expliqué ce que vous avez évité comme problème. Vous n'avez pas trop insisté sur les problèmes qui ont peut-être été présents, mais qu'on n'aura pas vu. Mais ça, c'est concrètement, un mois après, est-ce qu'il y a eu un travail, je dirais, de débriefing, d'analyse, de retour sur, dans vos rédactions, oui, deux mois, pardon. Est-ce qu'il y a eu un travail certains d'entre vous ont fait référence au fait qu'il y avait un peu des protocoles, qu'il y avait des procédures. Comment elles sont produites ? Est-ce que c'est des phénomènes de hiérarchie ou est-ce que c'est des choses qui se travaillent avec la rédaction ? Concrètement, comment se fait le retour sur dans votre rédaction ?
Je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective et effectivement depuis 2 mois, et on le voit très bien dans le traitement des faits divers notamment, il y a un souci de plus en plus fort, en tout cas plus fort qu'avant, à la fois de vérifier, de recouper, mais ça j'insisterai pas là-dessus, mais d'appliquer ce qu'on a essayé de tenir pendant durant le traitement de l'attentat de Nice, c'est-à-dire d'être dans un traitement respectueux, respectueux des victimes, et en ayant le souci le plus possible d'avoir du recul. Et c'est le recul qu'on a pu avoir dans les jours qui ont suivi, notamment autour des polémiques dont on a beaucoup parlé. Effectivement, c'est cette prise de conscience, c'est pas le renforcement de procédures, c'est surtout pas le fait de la hiérarchie, mais c'est un travail, une prise de conscience collective. C'est vrai qu'on s'est fait la réflexion avec certains membres de la rédaction en chef. Il y a beaucoup plus de réticence à aller et à foncer sur le traitement d'un fait divers qu'avant. Je pense qu'on a évité le maximum de pièges dans cette période-là, mais tout ça a profondément marqué les équipes, et particulièrement les équipes qui étaient sur place, et ça a changé quelque chose dans leur comportement.
Merci. Anne, dans le cadre de 20 minutes, comment peut-on résumer la situation?
Alors déjà, pour avoir vécu malheureusement plusieurs attentats dans la rédaction, je dirais qu'une des forces qu'on a eues, c'est que la rédaction est toujours restée très calme. Vraiment, c'est-à-dire que personne ne s'est emballé. Pourtant, c'est des moments de grande intensité dans une rédaction, y compris quand on a eu des proches touchés aussi, parce que Bataclan à Paris, on connaissait chacun des personnes qu'on avait croisées, plus ou moins, parfois des amis, d'autres fois c'était juste des connaissances. Pour certains qui en sont sortis, mais pour d'autres, malheureusement non. Donc là, la force qu'on a tirée de ça, c'est effectivement de jamais se laisser emporter par l'événement et d'essayer toujours d'avoir le maximum de sang-froid. C'est plutôt quelque chose qu'on a pour l'instant gardé. Après, je dirais qu'on est en apprentissage, même si on a des procédures, on va dire, de base, hein, c'est-à-dire essayer de passer vite une info fiable, faire attention à ce que peut recevoir l'internaute, le lecteur. Ça, c'est des choses qu'on garde, mais on s'aperçoit qu'avec l'accumulation de ces événements, se posent des questions nouvelles. C'est-à-dire que ce qu'on pensait être à peu près acquis est en permanence en train de changer. Comme je disais, le travail de modération qu'on a fait sur Bataclan n'était pas du tout le même que sur Nice, donc il faut à chaque fois se reposer la question. Donc globalement, après chaque événement, on essaye d'échanger, de se poser. On a forcément des échanges un peu permanents, c'est plus, on va dire, intuitif et c'est pas forcément organisé. Après, il y a quand même, à mon sens, moi, des choses qui relèvent de prise de décision hiérarchique, dans le sens où est-ce qu'on donne les noms, est-ce qu'on donne les photos. Il y a une responsabilité individuelle, mais si on décide de ne pas donner, ça doit pas être au cas par cas le journaliste qui décide en disant « moi je fais pas, mais mon collègue il fait ». Enfin, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il faut se poser à un moment donné, se dire c'est quoi la ligne, on peut en discuter, on entend des arguments pour et contre, mais voilà, il y a forcément des décisions qui sont prises à un moment donné. Je pense qu'on n'a pas fini du tout, à mon sens, de réfléchir à ces événements-là et à ce qui crée aussi derrière, c'est-à-dire qu'on voit bien, on parlait d'instrumentalisation, on voit bien que l'actualité aujourd'hui, là je dois dire que je fais face à une rentrée un petit peu inédite. D'habitude, vous avez un été, bon, il ne se passe pas forcément grand-chose. Vous rentrez, il y a les grands dossiers, il y a ceci. Il s'est passé, on va dire, l'été, ça a été un moment de l'année extrêmement intense, épuisant, parce que c'est épuisant aussi physiquement et moralement pour... pour nous, on est des êtres humains. Certes, on n'est pas des médecins à avoir passé, mais je vous assure que, quand vous supprimez des photos que vous ne voulez pas que les lecteurs voient, mais vous les voyez. Et quand vous les supprimez 100 fois, parce que ça m'est arrivé 100 fois, c'est quelque chose qui vous marque. Quand vous faites des listes de victimes, même si ce n'est pas de vos proches, c'est quelque chose qui vous marque. Donc il y a aussi des protections qui se mettent en place et une certaine fatigue. Et puis là, quand on rentre, on se trouve finalement face à une actualité qui est encore et toujours marquée par ces questions à la fois internationales, puisque c'est un contexte international de tension, de guerre, un contexte de société extrêmement tendue. Donc ça, ça nous oblige aussi à nous interroger au-delà des attentats sur notre rôle de média. Et c'est vrai qu'on a quand même vu que sur des affaires où il y a des personnes agressées qui sont en short, puis finalement elles ne sont pas en short. Mais c'est aussi, on va dire, des émanations de toute cette actualité. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas sensibles de la même façon à ces informations-là, et peut-être que nous, on n'est pas sensibles aussi de la même façon s'il n'y avait pas eu tout ce contexte. Donc je pense que le travail de débriefing ne fait que commencer et qu'il ne sera pas restreint juste à la question des attentats. C'est-à-dire qu'on va devoir se poser cette question pour énormément de faits d'actualité dans une année présidentielle. Il y a du boulot.
D'accord. Pour l'AFP, puis on passera la parole à ça.
Alors évidemment, on, après chaque événement comme ça, on pense à plein de choses. C'est vrai que... il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est vrai qu'on voudrait essayer à chaque fois de faire mieux, de faire plus vite par rapport aux réseaux sociaux et justement de perdre de moins en moins de temps pour détecter la bonne information et pour ne pas risquer de tomber dans les pièges, les choses trappes et autres rumeurs. Alors, comme Nicolas Van Der Piste le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de tweets le soir de Nice à l'échelle d'un réseau social de cette taille, mais je vous assure qu'à l'instant X, quand vous êtes quand même devant Twitter, il y a beaucoup beaucoup de choses et que vous avez la pression des gens qui vous disent derrière alors qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des morts, donc c'est faut se remettre sur le moment avec recul, c'est forcément plus simple. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voudrait essayer de faire, puisque les événements, les choses ne vont pas changer, je pense que plus ça ira avec l'amélioration des techniques, des équipements, des caméras, plus ça ira et plus on aura de contenu à notre disposition. Il faut vraiment, non pas automatiser, parce qu'on peut rien automatiser sur quelque chose comme ça, mais en tout cas aller chercher au plus vite l'info et la bonne info juste. Donc ça veut dire mieux former nos journalistes, qu'on essaye de faire de plus en plus, qu'ils soient de plus en plus à l'aise, à la fois dans la maîtrise de la recherche sur les réseaux sociaux et aussi dans la vérification d'infos. Je cite souvent comme exemple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil le plus utile quand on fait de la vérification d'informations sur les réseaux sociaux, c'est Google Images, la recherche d'images inversées. Dans 70% des cas, vous arrivez... C'est à la louche, mais en trois clics, vous démontez, vous savez que c'est une rumeur, cette photo ne correspond pas à l'événement, etc. Donc on essaye beaucoup d'insister là-dessus. Et puis après, c'est un peu ce que disait Anne Carlock juste avant moi, il y a un aspect aussi auquel on pense, qui peut paraître un peu accessoire, mais dans lequel on est de plus en plus confronté. C'est vrai que dans leur quotidien, les journalistes, depuis des temps immémoriaux, sont confrontés à des réalités souvent extrêmement dures. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser aux journalistes de terrain plutôt qu'aux journalistes de desk derrière un ordinateur. Et aujourd'hui, je ne dis pas que les gens sur le terrain ne voient plus rien, mais en l'occurrence sur les attentats, ils voient des choses, mais on est confronté à énormément de... justement, parce qu'on en recherche de confirmation, d'information, de contenu, on voit des choses extrêmement violentes, que ce soit des vidéos, des photos. Et là, à l'échelle de l'AFP, je ne parle pas seulement de Nice, je parle de tout ce qui se passe dans le monde, où on a des équipes spécialisées, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique, qui vont être confrontées de plus en plus à des contenus extrêmement violents. Et c'est vrai que ça, par rapport à... C'est aussi un vrai souci de savoir anticiper ça. On a beau se faire le cuir, etc., on en est, j'allais dire, malheureusement, parfois toujours sidéré. Hier, ne serait-ce qu'à titre personnel, j'ai fait des recherches sur les manifestations très violentes qui ont lieu au Congo et j'ai vu des choses. On marque un temps de recul vraiment certain. Donc, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Surtout que dans les rédactions, souvent, les experts réseaux sociaux ils sortent des écoles et aussi brillants soient-ils, ils sont. C'est une dimension. Je ne me trompe pas, on n'est pas des victimes des attentats, on n'en est pas, mais c'est quelque chose auquel il faut tenir compte.
Je vous propose que nous entamions la, la discussion. Il nous reste une demi-heure. C'est une discussion, ce ne sont pas forcément des questions, ce sont vos points de vue, vos réactions. Donc je suis. Je vous passe le micro.
Bonjour, je suis Thierry Franck, donc journaliste, formateur et consultant pour les médias. Donc le débat est vraiment très très intéressant, je vous félicite. J'ai une question qui a trait à la notion de normes. Vous avez tous évoqué la difficulté d'avoir une double contrainte, à la fois témoigner du réel et en même temps diffuser des photos et des choses qui sont acceptables par le public, acceptables. Dans l'espace, vous avez parlé de la difficulté qu'il y a de parler de choses en Afghanistan ou en France, et donc une distance qui, l'aspect géographique joue dans ce qui est acceptable par la norme globale. Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, que cette norme est en train de changer? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accoutumance à la violence, à ce qui était peut-être moins acceptable hier, et davantage aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sensible à ce point-là?
Du côté de l'AFP, moi j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, il y a de moins en moins de... Les gens, on le voit sur suite au 13 novembre à Bruxelles, à Nice, au contraire, dès qu'on met des contenus, des photos ou des vidéos très fortes, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est en général des insultes, 9 dixièmes du temps. Vous manquez de respect, on n'a pas besoin de ça, on sait, vous n'avez aucune pudeur, etc. C'est propre. Et là, on est dans ce que tu disais, Cyril, juste avant, cette fameuse notion du mort kilométrique. C'est-à-dire qu'à l'AFP, tous les jours, on a sur le fil des photos extrêmement dures de la Syrie, notamment. On diffuse, c'est repris par des médias. Nous, on peut diffuser sur nos propres canaux, sur les réseaux sociaux. Il y a 3 personnes qui vont commenter, qui vont nous dire « Ah, c'est peut-être pas... » Voilà. Si on passait l'équivalent, j'allais dire... Oui, entre guillemets, l'équivalent de ce qu'on peut passer sur le Proche-Orient à la suite des attentats en France, mais on aurait des débats à n'en plus finir et Arrêt sur Image aurait fait une émission, etc. Donc, il y a vraiment une perception, c'est-à-dire que je vais être très cynique, c'est-à-dire, bon, les Syriens, oui, on sait, ils sont en guerre, etc., ils se prennent des bombes, voilà. Bon, finalement, alors, pas sur les réseaux sociaux, mais vous avez sur le fil de l'AFP des photos de cadavres, de cadavres d'enfants, des choses insoutenables. Si on avait passé ça, je parle même pas sur les réseaux sociaux, je parle sur le fil de l'AFP, on serait en train d'en débattre aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une énorme différence.
Je voudrais juste intervenir. Je vous rappelle que la deuxième table ronde, c'est sur que montrer, comment on est, et que donc on va revenir là-dessus. Toute cette problématique-là. Donc moi, j'aurais une question à poser à Nicolas Bonnierpiste sur le flux de tweets, parce que c'est ça dont vous occupez. Vous repérez des origines. J'ai vu des articles de vous sur E89 qui sont extrêmement intéressants. Vous examinez la tweetosphère de l'extrême droite française et vous voyez le point de départ. Et là, est-ce que vous avez retrouvé les mêmes choses sur les attentats de Nice?
Oui, mais c'est-à-dire que idéalement, il faudrait prendre tout le volume de tweets qu'il y a eu sur les attentats de Nice et puis de voir qui a parlé où ça, idéalement. Et puis le comparer à qui a parlé durant les rumeurs. Mais en tout cas, pendant les rumeurs, il y avait à chaque fois une constante du Méridien, Negresco et de la majorité. C'est-à-dire qu'on trouvait quand même 35% de volume venant de l'extrême droite, clairement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un compte hyper connu qui est partout. C'est-à-dire que vous faites même une cartographie de « on n'est pas couché », vous le trouvez, il est partout. C'était Prince de l'amour, dit Napoléon. Voilà. Il est modeste, il s'appelle Napoléon. Et qui est vraiment, qui incarne en fait le courant de réinformation. C'est-à-dire qu'on reprend l'actualité telle qu'elle est, on la récupère et on lui donne l'angle que l'on veut. On le monte en épingle si on a envie, par exemple l'affaire des shorts, où on souligne des choses. C'est-à-dire qu'il fait ça souvent, c'est-à-dire qu'il prend un article qui vient de, ça peut même être de l'AFP, voilà, il souligne des choses, des commentaires, etc., qui sont censés prouver la théorie finale que lui a d'une droite unifiée contre les choses. Et donc, en tout cas, durant ces attentats, on peut dire que leur parti était vraiment énorme, c'est-à-dire que c'était vraiment un réseau d'informations et qui retweetait des rumeurs. Mais encore une fois, on ne peut pas en faire de constatations pures et dures. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire de comparaison. C'est-à-dire que c'est très possible que si je prends même des non-rumeurs, des informations, j'ai également 30% de l'extrême droite. C'est à voir, mais en tout cas, ça nous dit une chose très importante, c'est que ces communautés-là sont extrêmement actives. Elles sont plus actives que les autres. Et donc, en fait, dans ce qu'on voit et dans ce qu'on reçoit, évidemment, leur part de voix est beaucoup plus grande que dans la société française ou autre. Parce qu'en fait, sur le web, ceux qui sont les plus actifs sont ceux qui ont le plus de visibilité et qui font bouger les choses. Je prends l'exemple, par exemple, de l'image. Il y a des réactions. Mais en fait... Si vous n'avez pas de réaction, vous ne postez pas, en fait. C'est ça qui est fort avec le web. C'est-à-dire, si quelque chose ne vous dérange pas, vous ne mettez même pas un like, vous ne mettez pas de réaction, vous n'êtes pas mécontent. Et donc, en fait, on est dans le cas d'une minorité active qui se montre beaucoup plus que les autres et qui, en général, est toujours plus réactionnaire.
J'ai tout ça, là. Je ne suis pas certain que tout le monde veut entendre tous ces détails, mais je pourrais vous donner ça. C'est l'Université Western Australia, et c'est dénommé Michael Jetter, professeur d'économie politique.
Je vous verrai après, parce que je
n'ai pas envie de comprendre. Juste une question très rapide. Nicolas, vous n'avez pas envie de comprendre. Oui, pardon, Nicolas, je suis journaliste indépendant. Une question à propos de Prince de l'Amour, qui est quand même un fascine, je pense, tous ceux qui écoutent Twitter. Est-ce que quelqu'un connaît son identité ? Pour cela, en droit français, il faudrait qu'il y ait une instruction. Pour cela, il faudrait qu'il y ait une plainte, par exemple, en diffamation contre lui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a quelqu'un ?
Non, à ma connaissance, non. J'ai déjà discuté en PM avec lui, ce qui est très intéressant, et pour voir un peu. Lui, par exemple, il n'est pas à l'extrême droite. Il n'est pas d'extrême droite. Enfin, si lui n'est pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême droite en France, quoi. Donc, il n'a pas de plainte ni rien. Et en fait, quand vous regardez, c'est assez intelligent de sa part, hein, parce que vous ne pouvez rien lui reprocher. Il reprend juste des choses, il montre un angle. C'est comme si, en fait, on prend une photo et on coupe un bout à gauche, un bout à droite. La photo, elle est là, c'est une citation. Donc, en fait, vous ne pouvez rien dire, puisqu'il fait que vous montrez qu'une partie. Donc, à mon sens, il n'en aura jamais non plus.
Sophie Chevalier, je suis prête de conférence à Paris Vite. J'avais une question pour Anne Kellogg. Vous avez évoqué la modération, justement, en disant qu'elle avait changé depuis 2015. Et je voulais savoir dans quel sens. Vous avez dit à chaque attentat, on est amené à changer nos normes en matière de modération.
Non, c'est plutôt que ce à quoi on a été confronté a changé, plus exactement. C'est-à-dire que forcément, quand vous avez, ce qui a été le cas au Bataclan, des internautes qui sont dans la sidération, la retenue, qui pensent aux victimes, qui expriment une tristesse, votre travail n'est pas le même que quand vous avez affaire à une parole extrêmement agressive, prenant la peine de mort, des propos racistes, vous ne faites pas le même travail. Voilà. Donc notre modération n'a pas changé, on n'a pas changé de modérateur, mais évidemment, dans un premier cas, même si on a eu un afflux de messages, on a finalement bien maîtrisé cette arrivée de messages, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça qui était discordant, si ce n'est effectivement de poster des photos de cadavres au sein du Bataclan, voilà, là où on a eu ce travail-là. sur Nice, ça a été, c'était très dur, les réactions. Et là, bah, vous avez, c'est pas que la norme a changé, mais vous appliquez, la norme elle est la même. Mais vous n'avez pas, par exemple, on n'a pas eu tellement de personnes à bannir lors des attentats du 13 novembre, alors que je peux vous dire que sur Nice, même, enfin, il y a une équipe de community manager, il y a un modérateur, et moi j'ai mis mes mains dans le cambouis aussi, parce que quand le soir vous êtes sur votre portable et que vous regardez votre page et qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux, bah, vous appuyez, j'ai facilement banni 500 personnes à la main pendant quelques jours, hein, donc voilà. Mais la norme est restée la même, mais la transcription au quotidien n'a pas été la même.
Je voudrais prolonger la question de Guy parce qu'il me semble que ça va un peu dans le même sens. J'avais été frappé dans un débat récemment où Fabien Damias, donc directeur de la rédaction d'Europe 1, en gros disait nous avons compris, nous en tant que médias, que ce n'est plus nous qui apportons l'information, les premiers, ce sont les réseaux sociaux, et que nous sommes, disons, dans une position d'avoir à commenter, mettre en perspective, approfondir, enrichir, etc. Mais dans ce que j'ai entendu de la discussion, j'ai l'impression que vous continuez à considérer que vous êtes un moyen d'information parmi d'autres. Je n'ai pas entendu dans votre manière de poser le problème que vous avez géré une espèce de stratégie éditoriale qui viserait à intégrer ce que précisément vous n'avez pas envie de montrer. Parce que les réseaux sociaux font que votre public a des éléments que vous ne voulez pas montrer, que vous ne voulez pas discuter. Donc comment on fait concrètement si on dit qu'on est le lieu où se fait la mise en perspective, l'analyse, etc. Comment on fait en n'en parlant pas?
Oui, je ne sais pas si c'est très clair.
Vous voulez que je rende moi dire dessus, mais allez-y. Donc on est confronté comme... ça arrive parfois, c'est un privilège d'être correspondant à l'étranger parce que la rédaction est à distance et puis on a des décisions à prendre parfois et on a plus de latitude pour les prendre. Et on a ces réflexions à faire sur le plan individuel, personne ne va les mâchouiller pour nous parce qu'ils sont loin. Et on a donc des situations où on pourrait tout couvrir et décider de notre propre chef de se lancer partout, mais on va faire une sélection peut-être plus choisie, plus éclairée, on va dire, espérons-le. De certains événements qu'on va considérer qui sont plus révélateurs, qui vont être davantage parlant pour notre auditoire, pour aider à comprendre une réalité. Donc, on ne va pas y aller nécessairement en quantité, mais en qualité. J'ai, avec mon collègue donc du bureau de Radio-Canada à Paris, cette discussion très régulièrement. Nos rédactions à Montréal nous demandent de faire tous les sujets qu'ils voient passer sur les fils grâce à nos amis de l'AFP, entre autres. Alors, il y a une profusion de sujets. Ils voudraient toujours avoir un reportage sur chacun de ces sujets. On leur dit, ben, si les sujets sont bien faits par les agences, on les laisse et vous les citerez ou vous demandez à quelqu'un de la rédaction à Montréal, par exemple, de reprendre les éléments essentiels, d'en faire un résumé. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour traduire une réalité avec les yeux, par exemple, dans mon cas, du Nord-Américain qui vit ici et qui peut faire des comparaisons et apporter ce qu'on appelle, nous, notre espèce de valeur ajoutée, quoi. Donc, c'est ça le rôle. Et si chacun des journalistes exerce son métier de cette manière-là, ben, c'est la même façon de traiter toute la profusion de ces informations qui arrivent sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne va pas nécessairement sentir le besoin de les montrer toutes. On va choisir celles qui sont parlantes et qui ont une valeur, d'une part. D'autre part, ben, comme je disais, je crois, plus tôt, les voyeurs auront toujours l'occasion d'aller sur ces sites qu'ils connaissent pour en avoir davantage. Ceux qui tiennent absolument à voir les cadavres de la promenade des Anglais, ils vont pouvoir les trouver sur Internet. C'est pas ça notre objectif et c'est surtout pas ça notre rôle social. On a un rôle social à exercer.
Alors, pour compléter, je pense qu'on a effectivement perdu la bataille de la rapidité. On n'est plus les premiers sur l'info, mais on a un rôle nouveau qui est celui, on l'évoquait tout à l'heure, de la confirmation, du tri, du choix. Quelle information parmi le flot ou le flux, quelle information on choisit de traiter, et on a, pour le coup, pas perdu la bataille de la légitimité ou de la crédibilité. Il y a un exemple pour illustrer mon propos. On a eu il y a quelques jours un avion de la Turkish Airlines qui est passé très près de certains immeubles au-dessus de la promenade des Anglais. Donc, panique un mois après l'attentat. Bien entendu, cette information, on la repère tout de suite sur Facebook ou sur Twitter, et on s'en empare. On s'en empare, et c'est à partir de ce moment-là qu'on prend la main et qu'on joue notre rôle en la vérifiant et en expliquant ce qui s'est passé. Et on attend de nous, on attend des rédactions, on attend des journalistes, on attend des marques de presse de jouer ce rôle-là, et ce rôle, il faut qu'on continue à le jouer, sinon, effectivement, on perdra les autres batailles.
Sophie Gélène, qui voulait déployer une question.
Je voulais rebondir sur la question de la modération. Vous disiez que vous aviez été, et c'est une information effectivement intéressante, vous aviez été envahi par des messages haineux lors de l'attentat de Nice, et que c'était une différence avec ce qui s'était passé sur Paris. Mais ce n'est pas une nouveauté absolue, parce que moi j'ai le souvenir qu'il y a depuis au moins 3-4 ans, les sites d'information en ligne coupent complètement les commentaires. Par exemple, lorsqu'il s'agit, c'était un été, donc pas si lointain que ça, on avait beaucoup parlé des Roms, les hommes politiques en avaient parlé, notamment le président de la République de l'époque en avait parlé de façon extrêmement hostile, et les sites d'information en ligne avaient dû fermer complètement les commentaires. Donc je me demandais si... voilà. Et puis les appels à la tête de mort, bon, c'est quand même quelque chose qui circule aussi. Donc je me demandais si vous aviez d'une part décidé donc de ne pas fermer les commentaires, c'est-à-dire que vous considérez que c'est important aussi d'ouvrir les commentaires ces jours d'attentat. Et l'autre chose, c'est que vous nous avez dit que vous faisiez la modération, que vous la faisiez faire par Netino, puis finalement vous nous dites quand même que vous mettiez vous aussi la main à la pâte. Donc c'est quand même, vous avez des protocoles qui sont quand même, qui s'adaptent aux situations, ou quand est-ce que vous décidez de ne pas laisser Netino seul, enfin voilà, je vais en savoir un petit peu plus.
Alors déjà, je pense qu'il y a une grosse confusion, c'est que moi je parle pas des commentaires sur le site. Les commentaires sur les sites d'information, c'est marginal aujourd'hui. La conversation, elle ne se fait pas sur le site, elle se fait sur Facebook. Et vous ne pouvez pas fermer les commentaires comme ça sur Facebook. Donc, c'est une grosse différence. On a toujours pu choisir de fermer des commentaires sur le site. Quand je parle de 20 000 commentaires, la proportion qui se passe sur le site, elle est dérisoire. Donc, voilà, ce qui se passe sur Facebook, vous ne les fermez pas. À partir de là, il faut, voilà, il faut beaucoup de réactivité, ça va très vite. Sur la question de l'articulation entre Netino et nous, depuis toujours, on a la main sur les commentaires quand on veut. C'est-à-dire qu'ils font le gros du travail. Comme je vous dis, 20 000 commentaires par jour. Voilà, je vous laisse imaginer le boulot que ça fait. Et puis, ça transformerait nos trois community managers en robots à modération. Et c'est pas le but. Leur boulot, c'est pas ça. Ce sont des journalistes avant tout qui font aussi de la production à partir d'ailleurs de témoignages d'internautes ou de production d'internautes. Mais en revanche, dès qu'on en voit un, enfin, on est tous connectés sur les réseaux, on a la main pour supprimer, bannir, répondre. Voilà. En revanche, c'est nous qui répondons toujours. C'est jamais une. Voilà, Netino est là pour pas dire faire le gros du travail de modération et nous, on répond, on affine. S'il y a quelque chose qui nous dérange, voilà, on supprime directement. C'est surprenant. Voilà, c'est surtout tous les papiers depuis toujours. C'est évident qu'il y a beaucoup plus de commentaires dans ces moments-là. Et notre boulot aussi, c'est de signaler, parce qu'on sait très bien qu'il y a sur certains articles, on sait très bien que ça va déraper avant de les mettre. Donc, dans ces cas-là, on envoie tout de suite le lien du poste en disant « Vous priorisez ce poste-là dans votre traitement de la modération. » On oriente aussi le travail.
On va bientôt faire une pause, donc je vais vous poser la dernière question.
Oui, Alain Baton, ancien de la PQR et de l'AFP, juste une petite question à notre invité Bench. J'ai parlé de la distinction entre une témoin primaire et une témoin secondaire.
C'est-à-dire qu'en gros, témoin primaire, c'est la personne qui est directement sur les lieux. Et puis après, en fait, cette personne-là a fait un témoignage et c'est une autre personne qui capte ce témoignage et lui. En parler, donc c'est secondaire. C'est la séparation entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, là, typiquement également, dans les rumeurs des attentats, on avait une grosse production, je crois plus de 70%, mais franchement, il faudrait que je regarde encore les chiffres, je connais pas mes études par cœur, mais qui sont en dehors de la ville ou du lieu où ça se passe. Et donc en fait, c'est capté et c'est dit, et ceux-là sont, ils défendent mordicus qu'ils ont un témoin sur place qui dit qu'effectivement il s'est passé quelque chose.
C'est une forme de relais, en fait.
Exactement. Également, on peut mettre, à la limite, dans les témoins secondaires, ceux qui pensent qu'ils ont vu des choses, alors qu'en fait, non. La deuxième couche, c'est-à-dire qu'on, typiquement, il y a le premier événement, et puis il y a quelque chose qui vient en deuxième couche, qui vient confirmer. Je prends un exemple. Il y avait comme ça une blague sur les réseaux sociaux qui circulait, comme quoi, en fait, IKEA nous prendrait pour des idiots. Vraiment des idiots, parce qu'enfin, quelqu'un a décidé de traduire le meuble IKEA en français. Ce que personne n'a jamais fait. Hein. Et là, oh mon Dieu, on découvre qu'en fait, le meuble s'appelle connard. Voilà, j'ai dit un vilain mot, c'est très mauvais. Ma hiérarchie, on le sera. Et en fait, il met la publication avec le meuble IKEA, la police de IKEA avec le nom du meuble, et puis Google Translate. Là, la majorité des internautes, qu'est-ce qu'ils font pour vérifier l'information? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google Translate, ils tapent effectivement le mot et ils disent « Ah ça alors, ils nous ont vraiment pris pour des IKEA, il a raison, etc. » En fait, la vraie rumeur, ce qui était faux, c'est que le meuble, il ne s'appelle pas comme ça au départ. Mais donc ça montre bien en fait ce phénomène de surcouche qui vient donner l'illusion de vérité, alors qu'en fait pas du tout. Et donc, on a l'impression que voilà, il y a une explosion, en plus il y a les hélicoptères et des personnes d'hygiène, donc j'ai le biais de confirmation. Et ça c'est vraiment très important sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parle de témoins primaires, secondaires.
Merci beaucoup, merci à tous. On va faire une petite pause de 2 minutes et puis nous allons, le sujet a déjà été présent dans la discussion, revenir sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire, montrer ou ne pas montrer. Et à tout de suite. Merci à vous. Merci. Je crois que certains d'entre vous peuvent rester pour participer à la discussion.